Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir, vous écoutez bien l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble à 90.8. Et ce soir, on se retrouve pour l'annonce de la 28e édition du Printemps des Poètes qui a lieu du 14 au 21 mars.
Une création originale de l'Association des étudiants et étudiantes du Master Diffusion de la Culture.
Installez-vous confortablement.
Le feu crépite déjà.
Pour cette édition du Printemps des Poètes et des Poétesses à Grenoble, les étudiants et étudiantes du Master Diffusion de la Culture vous invitent à une veillée radiophonique hors du temps.
Entre les lueurs d'un feu de camp et les accords légers d'une guitare,
laissez-vous porter par des voix libres et pleines de créativité.
Bon allez, viens, on est en retard là.
Attends, mais je trouve pas mes tire-tiques.
Mais t'en as pas besoin de 15.
Ah oui?
Bah oui. Allez, viens, on y va.
Ok.
Le camp des poétos.
Bon, ça y est, on y est. Dans quelques jours, ça commence.
Ah,
ouais. Ouais.
Ah, j'ai trop hâte.
Ah, mais moi, je suis trop stressée.
J'espère qu'il va faire beau.
Oh, vous vous souvenez en septembre quand on a découvert le thème du festival ?
Liberté, force vive et déployée.
J'adore, ça m'a inspiré direct.
Pas moi, franchement, c'est pas si simple la liberté, c'est hyper large.
Mais d'ailleurs, on vous a pas dit, avec Ninon, on a été sur le campus pour interroger les étudiants et étudiantes sur la création et la liberté. C'était hyper intéressant.
Ah ouais ?
Vous leur avez demandé quoi ?
Bah, on vous fait écouter.
Ouais !
Allez, c'est parti.
Ok, le son c'est bon ?
Vas-y, parle pour voir.
Ouais, le festival du Printemps des Poètes, c'est un super festival qui a lieu à Grenoble du 14 au 21 mars. Il y aura plein de trucs, du cinéma, des expositions, du théâtre.
Ouais, ok, c'est bon.
Ok. On y va ?
On y va.
Attends, il y a un type avec un violoncelle.
Oh, vas-y, viens, je suis. Il est en train de lire sa partition en marchant.
Ça, c'est un vrai musicien, ça.
Ça, c'est un créateur.
C'est la cible.
Excuse-moi de te déranger.
Bonjour.
En fait, on est étudiante. On organise le Printemps des Poètes, qui est un festival à Grenoble.
Okay.
De poésie, mais plus largement pluridisciplinaire. Et là, du coup, on fait un micro-trottoir pour interroger les étudiants, poser 2-3 questions sur la création. Alors du coup, bon, on a des petits indices, mais est-ce que t'as une pratique créative ?
Oui, bah moi je vais être violoncelliste, là musicien d'orchestre quoi.
Je sais pas, je dessine, je fais un peu d'aquarelle, du crochet, des trucs comme ça, genre je touche un peu à tout en fonction de l'envie du moment quoi. Je peux se construire des trucs dans le jardin avec des cailloux, mettre du scotch et faire des baguettes magiques ou des trucs comme ça. Vraiment, genre faire du petit bricolage de jardin et après créer des maquettes, des trucs comme ça quoi. Et puis au fur et à mesure j'ai découvert d'autres médiums et voilà.
Piano ? Un peu de piano, oui. Les jazz, c'est mes sujets favoris.
Bah, je dessinais pour le plaisir, mais j'étais pas non plus une grande dessinatrice. La passion n'est pas restée très présente.
Je préfère écouter que qui pratique, mais j'aime.
Comment t'as commencé le violoncelle ?
Quand j'étais tout petit, mais par hasard complet, j'ai pris le dernier instrument qu'on m'a fait essayer parce que je me suis dit que je m'en rappellerais mieux. Et au final, c'est que 7 ans après que je me suis dit « Ah, c'est trop bien !» et voilà.
Mon papa, il joue dans un groupe de musique et ma maman, elle a été chanteuse dans ce groupe de musique. J'ai toujours été un peu bercée pour ça et je chantais sous la douche, voilà. Comme un peu tout le monde, finalement.
J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé découvrir plein de choses différentes et tester des trucs. Et je sais pas, ça m'attire énormément parce que c'est... Je sais pas, je trouve ça joyeux.
Je sais plus trop comment ça a commencé, j'ai dû faire un cours une fois comme ça, on a dû me forcer sûrement. Et après j'ai adoré.
Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à faire tout ça ? T'as autant le temps de le faire ou pas ?
En vrai, ça dépend. Genre cette année oui, parce que j'ai moins de cours, mais par exemple, deux premières années de fac, non. Mais du coup, ouais, ça dépend énormément de la quantité de cours que je vais avoir. Et là, cette année, j'essaye de reprioriser un peu ça parce que ça me plaît plus.
Il n'y a plus de temps. Je travaille et de manager mon temps, c'est difficile.
Est-ce que vous avez une pratique créative ?
Alors, j'écris depuis toute petite, en vrai. Avant, c'était un peu cliché, mais j'écrivais dans mon journal intime quand ça allait pas. Ça vient de là. Et j'ai commencé à écrire des histoires au Covid, parce qu'il y avait du temps à tuer, finalement. Donc, voilà. Et depuis, j'écris assez souvent, en vrai.
Pas de ouf. Ça m'a jamais vraiment intéressée, mais un jour, j'ai voulu apprendre à dessiner. Mais ça prenait trop de temps, du coup j'ai arrêté.
Du théâtre et de la danse.
Est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques ?
Depuis que je suis petite.
Alors le chant depuis toute petite et le théâtre depuis mes 8-9 ans.
La danse, c'était ma mère, elle en faisait quand elle aussi elle était petite et elle en fait toujours maintenant. Quand j'avais 5 ans je crois qu'elle m'a lancée dans des cours de danse et j'en fais régulièrement.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore tu pratiques ?
Bah, bonne question, je pense c'est une manière de m'exprimer. Je serais pas entière si je pouvais pas écrire.
C'est une sorte d'échappatoire à la réalité.
Quand je danse, quand je suis sur scène, je lâche tout, je pense à rien du tout à part ce que je fais. Le théâtre aussi. Et c'est juste une sensation incroyable qu'on peut pas le comparer à d'autres choses.
Est-ce que dans ta tête, il y a un lien entre pour toi liberté et création ?
Oui, carrément. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais par exemple, la création, c'est juste laisser libre cours à ses idées, à ses envies, enfin un peu à là où notre esprit nous mène. Et du coup, c'est, enfin pour moi, c'est intrinsèquement lié.
Ouais, l'un va pas sans l'autre. C'est une manière d'être libre, et l'écriture amène une liberté. Enfin, pour moi, c'est le meilleur moyen d'amener une liberté, c'est l'écriture.
Pour la confiance en soi aussi, parce que quand on crée quelque chose, on est toujours un peu fier de ce qu'on a fait. Après, au lycée, j'ai fait un atelier musique, donc où j'ai pu vraiment chanter devant des gens. Et j'ai eu tellement accroché, c'était incroyable, c'était la révélation quoi, j'adorais être sur scène et tout, c'était incroyable.
Et mais, faire des ateliers créatifs à l'école, c'est pas exactement le sujet de votre chronique ça ?
Ouais, pas exactement.
On parle plutôt de comment l'école nous a fait perdre l'élan créatif.
Ah ouais, ok.
On peut écouter ?
Bah ouais, carrément. Allez, c'est parti. La dernière fois, Oriane, Tiffaine et moi, on s'est retrouvés pour écrire. Cette fois-ci, pas pour rédiger une chronique, mais bien pour écrire de façon artistique. Mais aucune d'entre nous n'a réussi à aboutir à quelque chose de satisfaisant. Soit on n'arrivait pas à se défaire des formes institutionnelles, soit on n'arrivait pas à démarrer, soit on avait honte de ce qu'on produisait. Et en discutant autour de nous, on a réalisé que beaucoup de personnes étaient dans le même cas. Et tous trouvent comme première raison l'école. En fait, on a été conditionnés à produire des travaux rationnels et objectifs, mais on n'a pas vraiment appris à créer, si tant est que ça s'apprenne. Dans cette chronique, on aimerait donc répondre à cette question. Pourquoi la création n'est-elle pas valorisée dans le parcours scolaire ? Et comment retrouver ce sens de la création ?
On s'est rendu compte qu'à l'école, la création, elle était surtout valorisée en maternelle et en primaire. Au départ, elle fait même partie intégrante des journées. Dessin, sculpture, pâte à sel, collier de perles, pendant 3 années environ, c'est notre quotidien. Puis en primaire, une bascule s'opère. La création, elle vient se résumer à des cadres occasionnels pour les parents et pour la famille. Ensuite, au collège, seulement 2 heures d'art plastique par semaine. On a 2 heures de création qui sont souvent mêlées à la découverte de l'histoire de l'art. Donc en fait, le temps de création, il diminue drastiquement pour laisser place à ce qu'on pourrait appeler des apprentissages essentiels. La résolution d'équations, la compréhension de textes, la découverte du fonctionnement de la Terre. Et au lycée, alors la pratique, elle disparaît complètement du cadre scolaire. Il ne reste que la spécialisation floue vers un avenir plus flou encore, dans lesquels, si l'option ou la spécialité art existe, elle n'est pas ouverte à tous. Lors de ce processus, on comprend que la création n'a pas sa place au centre de notre existence. Elle est remplacée par ce qui nous semble utile dans notre vie professionnelle et personnelle d'adulte. Donc le besoin de créer, il s'amenuise au profit de l'apprentissage. C'est comme s'il y avait tellement de choses à emmagasiner que la création devenait un simple passe-temps.
Mais alors, quand est-ce que ça devient un besoin ? Et pourquoi cette nécessité de créer disparaît parfois ? En fait, pour répondre à tout cela, la première chose à élucider, c'est de savoir ce qui fait que la créativité est un besoin humain. Quelque chose revient beaucoup dans nos lectures autour de ce sujet, la résolution de problèmes. On crée avant tout pour faire face à des difficultés. C'est presque quelque chose de l'ordre de la survie chez l'humain. Pour donner un exemple, on est nombreux et nombreuses à avoir déjà réfléchi à des manières d'échapper à un incendie, et ces pensées puissent dans notre créativité pour trouver une meilleure solution, la plus efficace. À l'origine, la créativité est donc bien une faculté nécessaire à la survie de l'homme. Mais dans l'expression artistique aussi, on peut voir une forme de nécessité, car l'art, c'est très souvent ce qui reste. C'est l'idée que les latins expriment dans l'adage « verba volant scripta manent », la parole s'envole, les écrits restent. Il semble bien que l'art soit une manière pour l'homme de tendre vers une forme d'éternité, car créer, c'est fixer son existence.
Remarque qu'on est nombreuses et nombreux à ne pas réussir à créer. Mais pourquoi ? Et comment font celles et ceux qui parviennent à passer outre ? L'un des problèmes de la création, c'est qu'elle vient de nous. On laisse passer un peu de notre intériorité, on s'expose au regard et à la honte. Or, Sartre le rappelle bien, la honte est un dévoilement de soi. On existe par les yeux d'autrui, on cherche une reconnaissance, mais on n'a aucun contrôle sur ce regard. Il est porteur d'un jugement dur qui nous foudroie. Impossible d'aller plus loin, car que pourrait dévoiler cette création de nous-mêmes ? On pourrait donc dire que cette honte ne vient pas d'un regard extérieur mais de nos propres peurs. C'est notre jugement qui est à l'œuvre, et il est vrai qu'à l'école, on n'apprend pas à recevoir les critiques. Tout le monde est en quête de la perfection. Or, c'est en se confrontant aux échecs que l'on peut s'améliorer. C'est parce qu'on pratique qu'on est capable d'aller plus loin. On peut peut-être penser la création comme un simple espace de liberté, une manière de sortir de son quotidien. Peut-être même est-ce là la clé du déblocage. La création pour soi n'est pas un espace de productivité, on n'a pas besoin de rendement, de résultats. Et comme le disait Julie, créer peut même être la clé pour débloquer une situation. C'est ce que cherche à mettre en place le creative thinking, ou la pensée créative. Proposer des ateliers, mettre en mouvement les corps, voilà autant de manières de sortir de son incapacité créatrice. Cette pensée créative peut s'appliquer à tous les domaines de l'existence et permettrait même de trouver de meilleures solutions à chaque étape de nos vies. Ainsi, il faut remettre la création au centre des programmes scolaires, car c'est précisément la créativité qui permet de mettre en place de nouvelles choses et de s'épanouir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la créativité est une compétence essentielle dans nos vies professionnelles et personnelles. Inventer un code, créer un site web, proposer des ateliers dans des EHPAD, tout cela nécessite un esprit créatif. Mais alors, pour celles et ceux qui ont déjà fini leur parcours scolaire, comment retrouver le sens de la création dans nos vies d'adultes bien remplies ?
Proposez des ateliers créatifs à vos amis. Au quotidien, prenez un carnet avec vous, notez ou dessinez ce qui vous entoure. Essayez, ratez, continuez. Voyez la manière dont vous cherchez des solutions comme une faculté créative. Et surtout, n'hésitez pas à vous donner des contraintes. Car, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une liberté totale de création est souvent difficile à gérer. La prochaine fois que vous voudrez vous lancer dans un projet créatif, qu'il soit uniquement pour vous ou qu'il soit destiné à être partagé, n'hésitez plus. Mettez-vous quelques contraintes à respecter. Vous verrez, c'est magique. Car c'est par la contrainte que l'on trouve des solutions ingénieuses et que l'on débloque notre créativité.
Ça veut dire que moi, là, avec ma créativité en carton, je peux quand même créer des choses ?
Bien sûr, Émilie. La seule limite à ta créativité, c'est celle que tu t'es imposée pour répondre aux exigences du système scolaire et du conditionnement social qui l'accompagne.
Ça veut dire oui. On peut créer du coup ?
Ça veut dire champ libre, les enfants !
Ouvrez les écoutilles, on vous a concocté une petite douceur pour les oreilles.
J'attendais la fin des interdits. J'attendais de grandir pour qu'on ne puisse plus m'interdire. La liberté, avant, c'était de pouvoir sortir quand il pleut. Et rester à l'intérieur quand il fait beau. Taper celui qui a frappé en premier, dire des gros mots et courir cul nu dans la cuisine. Capturer des crapauds et les nourrir d'escargots. Faire des soupes de vers de terre et jouer sous le tonnerre. J'attendais de pouvoir dire à mes parents « Non, je t'aime, va te faire foutre. Tu te trompes et de toute façon, je fais ce que je veux.
Je fais ce que je veux. »
Le problème quand on n'a plus d'interdits, c'est qu'on ne peut plus les braver. Maintenant, moi, je suis libre. Et je fais ce que je veux. Du temps. De mon temps. Dont je dispose comme je veux. Je suis libre de me coucher tard et de regarder mon téléphone le soir. Libre de trop manger. De courir sous la pluie. Libre d'écouter de la musique fort et de m'engueuler avec le voisin qui est aussi libre de vouloir dormir que moi, de le faire chier. Libre de dire bonjour au clochard et ta gueule à celui qui abuse de sa liberté de parler et de penser de la merde. Libre de discuter avec des inconnus et de tourner le dos à ceux que je connais trop.
Libre de m'humilier,
d'aimer qui je veux.
Et d'ignorer ceux qui m'aiment.
Libre de dire des gros mots, même dans mes poèmes.
Libre de me faire mal et de même pas me soigner. Libre de remarquer les blessures de ceux qui ont abusé de leur liberté de souffrir. Libre d'aller voter
ou de dire que ça ne va rien changer.
Libre de le penser
ou de faire semblant.
Libre de réussir.
Libre d'échouer.
Que font les autres de toute cette liberté ? Libre de ne rien faire et de culpabiliser. De penser que, de toute façon,
ça ne va rien changer.
Ne cours pas.
Ne cours pas.
Tu vas tomber.
Ne touche pas. Tu vas te salir. Ne pleure pas.
Tu vas t'humilier.
Ne parle pas.
Tu vas le regretter.
Ne pars pas.
Ça va te manquer.
La liberté, c'est quand on ne peut plus faire confiance à un autre pour nous dire quoi faire. C'est agaçant quand on doit écouter celui qui sait toujours mieux.
Mais c'est rassurant.
Comment je fais, moi, pour choisir mes interdits ?
Pas le choix.
Pour goûter à la liberté,
je tombe,
je me salis,
je m'humilie,
je le regrette.
Ça me manque. La liberté des enfants qui, bravant les interdits, savent déjà quoi faire de leur temps et ne se laissant pas paralyser par la liberté des grands.
C'est super chouette ce que vous avez créé. Je suis désolée de vous interrompre, mais on vient d'avoir une nouvelle. Aliénor, elle est disponible pour une interview et on peut l'appeler dès maintenant.
Mais c'est trop bien.
Donc tout le monde, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire le silence ? On va l'appeler.
Bonjour Aliénor, on est très heureux de t'avoir au téléphone. Tout d'abord, est-ce que tu nous entends bien ?
Bonjour, ouais, je vous entends bien. Super. Très bien.
Donc, merci beaucoup de te rendre disponible malgré ton emploi du temps chargé.
Avec plaisir.
Le public aura la chance de pouvoir t'écouter lors de notre soirée de clôture du Festival du Printemps des Poètes à la Grange Agabi à Angers. C'est dans le Vercors et ce sera le 21 mars. Ce moment d'échange donne l'opportunité aux auditeuristes de te découvrir avant le festival. Et du coup, en écho avec le thème « Liberté, force vive déployée », nous souhaitions en savoir un peu plus sur ce qu'est pour toi la liberté et surtout la liberté dans la création artistique.
Alors, on va commencer avec la première question. Déjà, quelle thématique relative à la liberté ou quel combat est-ce que tu développes dans tes musiques ?
Alors, je dirais que je parle de liberté surtout par rapport à mes émotions. Donc, pour être un peu plus claire, je pense que ce que j'ai envie de partager, moi, grâce à mes chansons, c'est de se sentir libre de vivre les émotions qu'on doit vivre ou qu'on veut vivre vis-à-vis des événements qui se passent dans nos vies. Et que chaque émotion est OK, qu'on doit pas faire en fonction des attentes des autres et que on peut être qui on est et ce qu'on vit, voilà, on a le droit d'être tout ça et en tout cas moi c'est ce que j'aimerais que les gens se disent en écoutant mes chansons, c'est OK, elle a vécu ça et donc j'ai le droit aussi de le vivre tel quel.
Et du coup, tu dis que tu t'inspires de ce que tu vis. Quand tu écris, quand tu crées, est-ce que l'inspiration te vient spontanément ou est-ce que tu te crées un espace propice au travail pour créer ?
Je pense un peu les deux. Des fois, effectivement, c'est vis-à-vis d'un événement ou d'une émotion qui me traverse et que j'ai vraiment envie de communiquer, j'ai vraiment envie d'écrire dessus et souvent, c'est au moment T. Donc là, c'est plus... je vais... saisir l'instant et écrire malgré l'environnement qui va être autour de moi. Et des fois, il y a des... À l'inverse, ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours que je pense à quelque chose, que j'ai envie d'écrire dessus et où ça vient pas forcément naturellement. Et donc là, je vais me prendre un temps et je vais me pencher sur le sujet et écrire à ce moment-là.
Merci pour ces réponses. On en sait un peu plus sur ton processus de création. On va maintenant écouter un extrait d'une de tes chansons pour un peu mieux illustrer ton propos. Voici Star de Aliénor pour le Printemps des Poètes.
De quoi t'as peur quand tu me vois ? J'ai juste envie de sortir la voix. Je suis une chanteuse, une interprète, une fille heureuse et loin d'être bête. De quoi t'as peur quand tu me vois ? Que je sois meilleure que toi ? Ou bien que j'ouvre un peu ma gueule, qu'il y ait de l'écho, que je sois pas seule ? Pourquoi parfois tu me parles de haut ? Je veux juste monter sur un plateau, mais avoir droit à la parole, c'est déjà tout un symbole. Pourquoi parfois tu me parles de haut ? Je veux partager mes idéaux, tu pourrais me prendre pour ton égale. Mais tu préfères me faire la morale. Je veux pas devenir une star, moi je veux juste faire ma vie. Monter sur une estrade reine et raconter ma vie. Je veux pas devenir une star, moi je veux juste faire des poèmes. Vous faire taire comme les tsars, ça me pose aucun problème.
Vous venez d'écouter un extrait de Star d'Aliénor qui sera en live à la Grange Agabi pour la clôture du Printemps des Poètes.
Ton travail n'est pas seulement musical, comme tu le disais à l'instant, tu pratiques aussi la danse, le théâtre et même le cirque. Et est-ce que pour toi, la liberté passe avant tout par le corps ? Et surtout, est-ce que les autres formes d'art étaient là dès le début ? Ou est-ce qu'elles sont venues à travers le processus de création générale ?
Je vais répondre à la deuxième, puis je viendrai à la première après. Alors, oui et non, il y a toujours eu de la musique dans ma vie et de la danse. Enfin, depuis genre mes 6-7 ans. Et je dirais qu'à partir du moment où j'ai choisi, moi, d'en faire un métier, ou en tout cas d'essayer d'en faire un métier, j'ai lié vraiment les deux pratiques et j'ai choisi d'aller vers la comédie musicale et donc de découvrir un peu le théâtre. Et donc, du coup, la première question, c'était, tu peux me rappeler ?
Alors, c'était, est-ce que, en parlant des autres formes d'art, est-ce que tu penses que la liberté passe avant tout par le corps ?
Je la trouve un peu difficile, cette question, dans le sens où, comme je disais, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes blocages ou les mêmes besoins à des endroits. Donc, du coup, on ne vient pas chercher les mêmes libertés. Donc, moi, je pense que le théâtre m'a beaucoup débloqué dans mon corps, étonnamment, alors que je venais de la danse. Pour autant, je ne sais pas si n'importe quel autre artiste dirait ça. En tout cas, je pense que tout est lié. Moi, j'aime pas trop différencier corps et parole, si c'est la question. Donc, du coup, je pense que la liberté, elle se trouve un peu partout. Et surtout, ce qu'on trouve en liberté dans le corps, du coup, ça nous libère ailleurs dans la parole et inversement, et dans le chant. Et voilà.
D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que, pour finir, tu aimerais nous parler un petit peu de tes projets en cours ?
Avec plaisir. J'ai deux projets. Il y a Aliénor que je continue d'écrire, que je continue de jouer un peu en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que. Là, je vais être à Paris bientôt. Et ensuite, j'ai une autre création donc avec ma compagnie Ad Corum qui est L'Embrasement. Et ça, c'est une création chorégraphique. On est deux sur scène et ça parle de l'étreinte sous toutes ses formes. Et c'est une création en cours. Donc, on a bientôt une résidence et bientôt une sortie de résidence en mars à Nerpic. Et on pense créer ça pour 2027. Voilà. C'est mes deux grosses actualités.
Eh bien, super. On a hâte d'en savoir plus. En attendant, on te remercie pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et on a hâte de t'écouter le samedi 21 mars. À la Grange à Gaby. Les réservations se font d'ailleurs directement auprès d'eux au 07 44 77 39 77. À bientôt et merci encore.
Merci à vous.
Ah, c'était vraiment trop cool d'entendre Aliénor parler de liberté dans la création.
Oui, c'est vrai. T'as l'air bien pensive, Adèle.
Oui, pardon. Je me disais que tout ça dépend pas mal de paramètres, notamment les moyens des artistes, ce qui leur permet de créer.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Attends, je t'explique.
Grenoble, c'est une petite ville, mais il y a plein de choses à faire. On a des théâtres, des salles de concert, des musées, des parcs, mais surtout énormément d'associations. On peut rencontrer ces acteurs culturels facilement parce qu'ils sont répertoriés dans les journaux, installés dans la ville. Ils sont, comme qui dirait, institutionnalisés.
Donc c'est ça la culture ? C'est ce qu'on peut voir dans les lieux culturels ? Dans les théâtres, les ciné ?
Mais non ! La culture, c'est pas que ça !
Ah bon ? Dis-moi en plus.
Elle ne se réduit pas à l'officiel. Il y a aussi la contre-culture.
La contre-culture ? C'est quoi ? C'est comme une contre-soirée ?
C'est plus complexe que ça. Et comme c'est très dur à expliquer, je vais laisser Alex, Tito, Guillaume et Hilda s'en charger. Faisons un bond dans les années 2000 et écoutons les témoignages de ces musiciens et organisatrices de soirées alternatives à Grenoble.
Monsieur Jeune, il a participé à l'ouverture d'un squat qui s'appelait le Mandrake, rue Ampère. C'est au Mandrake que j'ai vu émerger une scène un peu plus alternative à Grenoble, avec une autre ambiance, plus punk. Entre-temps, j'ai organisé de plus en plus de concerts en collaboration avec Hilda et Ludivine des Conchitas, prod. Le message était plus militant parce que les Conchitas étaient en opposition au fait que les filles, on les retrouvait seulement derrière les fourneaux, en train de passer le balai après les concerts. Nous, on voulait mettre les meufs plus en avant et dénoncer un peu tout ça. Dans l'assaut, il y avait ce message sur la parité, l'égalité. On indiquait toujours nos messages antisexistes, antifachos et anticapitalistes. On faisait des concerts un peu partout. On a beaucoup testé les lieux, squats, bars, salles municipales, showcase au Magic Bus, la librairie L'Encre Rage, de plus gros lieux. Et le tonneau de Diogène. C'était vraiment très chouette.
Cet extrait est tiré de l'ouvrage Grenoble Calling qui retrace l'histoire de la scène punk à Grenoble dans les années 1980 à 2020. Dans ce livre, on parle de la scène DIY
Do it yourself
non commerciale qui s'organise hors des circuits officiels grâce à l'autogestion. À travers ces fragments d'histoire, celles et ceux qui ont contribué à ce paysage culturel alternatif nous racontent la liberté, la camaraderie et l'entraide dans ces espaces de revendication, motivés par des valeurs anticapitalistes, antifascistes, antiracistes et antisexistes.
Bon, ce mouvement il est né dans les années 60, mais il a toujours sa place aujourd'hui ? En fait, les cultures alternatives se déclinent de plein de manières, non ?
Oui, d'ailleurs on a pu rencontrer Val, une personne qui a fait ses études dans le domaine culturel et qui a voulu s'en détacher. Yael se renseigne et s'implique dans ces milieux alternatifs, notamment dans la gestion d'une cantine solidaire. Actuellement, Yael participe à l'organisation d'un festival militant et nous a fait part de ses motivations et de ses impressions.
On veut porter attention à la diversité des personnes sur scène, en termes de personnes racisées ou non racisées, de personnes cis, queer. L'idée, c'est de programmer quelque chose de différent et de donner un espace de représentation à des personnes qui n'y ont pas accès dans la vie.
Ce besoin de donner de la visibilité aux personnes et aux formes d'art minorisées caractérise la dimension politique de ce genre d'événement.
Dans la préface, en effet, on peut lire que le punk c'est avant tout un terrain d'expérimentation, musicale bien sûr, mais qui recouvre bien d'autres domaines. Fanzina, édition, sérigraphie, label indépendant, organisation et vie en collectif, et donc aussi cuisine et ménage.
Donc globalement, la contre-culture entretient un rapport complexe avec les institutions.
Mais c'est quoi une institution ?
Une institution, c'est un cadre reconnu, légitime, stabilisé par des règles. Elle donne une existence officielle à un lieu, un collectif, un événement. En pratique, ce sont des institutions publiques qui permettent d'accéder à des subventions et d'assurer une activité. Et en même temps, elles imposent des normes, des contraintes, parfois des censures. Les institutions permettraient donc de légitimer ces formes d'art minoritaires, mais elles les limiteraient aussi. Tout l'enjeu de ces dernières décennies a donc été de mettre en place des cadres spatio-temporels permettant de se soustraire au système dominant de régulation et d'emprise économique, afin d'expérimenter des alternatives culturelles et sociales.
Wow, j'ai rien compris.
Eh ben, tu reviens 20 secondes en arrière et tu réécoutes.
Mais je peux pas, c'est en direct.
Bon, en gros, dans un contexte où les subventions publiques diminuent et où certaines structures culturelles locales voient leur financement fragilisé...
Et tout de suite, le projet de loi finance adopté le 2 février 2026. Les crédits de paiement de la mission culture représentent 3,54 milliards d'euros, soit une baisse de 174 millions d'euros, équivalent à une diminution de 4,6% par rapport à la loi de finances 2025, qui était de 3,72 milliards d'euros.
Et de l'autre côté, la montée de l'extrême droite qui cherche à faire taire les minorités. Des questions deviennent alors primordiales.
Peut-on créer autrement ?
Peut-on se passer des financements institutionnels, publics ou privés, pour garantir une réelle liberté d'expression ?
Ça fait beaucoup de questions pour un petit cerveau.
Tout ça me fait penser à ce qui s'est passé à Grenoble, il n'y a pas longtemps, à La Bobine. C'est un bar associatif installé depuis 27 ans dans le parc Paul Mistral. C'était un lieu emblématique de la scène alternative. Mais en 2025, l'association Projet Bob, qui était porteuse du lieu, a été placée en redressement judiciaire, puis liquidée. Quelques mois plus tard, le lieu a été squatté sous le nom de Bobine Occupée. Val, qui était là-bas, nous a raconté que c'était un véritable espace de vie tentant l'autogestion un maximum entre militantes et habitantes. Malheureusement, les occupantes ont été expulsées du lieu en hiver, sans donner d'alternative concrète aux personnes sans domicile. Aujourd'hui, le lieu a été repris par la Belle Électrique et le projet est en cours de construction. On s'interroge sur ce changement de politique culturelle.
À ce jour, il existe de nombreux lieux et associations à Grenoble qui permettent aux personnes de se réunir et d'expérimenter des nouvelles manières de créer, de penser ou de vivre. Il y en a des militants comme le 38, des artistiques comme le 102, des socioculturels comme le Grand Collectif, des étudiants comme l'Université Autogérée et plein d'autres encore, qui mettent en place notamment la gratuité, le prix libre, le troc, le prêt, l'entraide ou l'enseignement gratuit.
Le but serait de s'émanciper du système libéral en réinventant nos pratiques artistiques, notre façon de consommer l'art et de consommer tout court, mais aussi notre façon de célébrer, de faire la fête.
Ah ouais, j'ai envie de faire la fête maintenant.
Eh ben ça tombe bien, il y a le Festival du Printemps des Poétesses dans quelques jours.
Cool! On se retrouve le 14 mars pour la soirée d'ouverture au Baradi.
Et toute la semaine jusqu'au 21.
À plus!
J'adore, ça a l'air super comme festival.
En tout cas, Corentin, ça fait plaisir de te voir ému comme ça. Hein.
Moi? Rien à voir, j'ai de la fumée dans les yeux, c'est tout.
Quelqu'un n'était pas censé amener une guitare? J'en peux plus d'attendre le concert pour écouter de la musique live.
Moi, je peux lire des poèmes si vous voulez. J'ai le recueil de Christopher Alexander qu'on rencontre vendredi au Moderne.
C'est qui a avancé le paiement pour les chamallows pour que je la rembourse?
Attendez, il y a des chamallows?
Non.
Oriane, donne les chamallows. Le printemps des poètes, c'est une histoire de partage.
Oh, mais j'ai faim.
Laura, tu peux rajouter une bûche dans le feu?
J'adore le feu. Ça me rappelle un film. Vous savez le film de Céline Sciamma, là? The Girl on Fire?
Oh, this girl is on fire, fire, fire.
Tu veux dire le portrait de la jeune fille en feu? Le film qu'on passe mercredi au club?
Oui, voilà.
J'ai hâte de voir le feu grandir.
Ok, tout est prêt, la flamme est allumée. On n'attend plus que le public pour l'alimenter et le sublimer.
Allumer le feu!
Claire, tu peux nous jouer un air de guitare pour attirer le public, de préférence avant que Ninon se lance dans un karaoké.
Ok, vous êtes prêts?
Ah, sur Campus Grenoble 90.8. Oui.